L'amphi, l'émission étudiante.
Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Aujourd'hui, une émission spéciale sur le rapport entre les jeunes et le théâtre. Selon une étude de 2023 de l'Association pour le soutien du théâtre privé, plus d'un tiers des spectateurs est un public situé entre 15 et 34 ans. Il reste tout de même que les 50 ans et plus représentent 43% de la fréquentation des théâtres. A priori, même si les jeunes sont minoritaires, ils ne semblent pas non plus inexistants dans les gradins du théâtre. Pourtant, on a cette image du théâtre déserté par un public jeune, image véhiculée y compris par certains acteurs du monde du théâtre. Attirer les jeunes est présenté comme un enjeu actuel du théâtre, mais les jeunes ont-ils vraiment besoin qu'on les attire? Pour examiner cette question, j'ai fait appel à un professeur de théâtre. Bonjour, Alain Meneuf.
Bonjour.
Alors, vous êtes accompagné de vos élèves Louis, Hélène et Mathias. Bonjour à vous également.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai également fait appel à des jeunes qui ne sont ni acteurs du théâtre, ni vraiment spectateurs, pour qu'ils nous fassent part de leur rapport à cet art vivant. Bonjour Baptiste et Clémentine.
Bonjour.
Salut Charlie.
Alors, nous allons ensemble examiner les raisons qui pourraient justifier que les jeunes n'aillent pas au théâtre et déterminer si ces raisons sont des opinions fondées ou bien des préjugés qui empêchent d'appréhender le théâtre comme un art accessible à tous. C'est parti pour cette émission sur les jeunes et le théâtre.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand plus on est de fou et plus on s'emmerde.
Pour commencer, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous, Alain Meneux, et sur vos élèves. En quoi consistent vos cours, en fait? Qu'est-ce que vous y faites?
Bah, c'est un cours de pratique théâtrale, c'est-à-dire qu'au conservatoire, on permet à des jeunes gens qui ont envie de jouer, qui ont déjà commencé à jouer, on leur permet d'approfondir un peu les choses. On est quand même assez technique. Et je dirais que l'intérêt de ces cours-là, c'est d'apprendre à construire son corps d'acteur ou d'actrice et à comprendre comment ça peut fonctionner et qu'est-ce qu'on peut mettre en jeu de soi-même.
Et alors du coup, est-ce que vos élèves se constituent en troupe ?
Non, il n'y a pas de troupe, c'est pas vraiment, au conservatoire, c'est pas vraiment le but.
D'accord.
Il y a une troupe à l'université, il y a des troupes amateurs. Le but, peut-être, ou le rêve, le souhait, ce serait que des élèves, après avoir une pratique sérieuse et soutenue du théâtre, renouvellent le théâtre amateur ou aillent prendre en charge une troupe de théâtre amateur. Mais on fait pas de troupe, même si on présente des travaux.
Ah, donc vous avez quand même des représentations
oui.
En fin de semestre, en fin d'année.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous constatez au niveau de la fréquentation des théâtres en termes d'âge? Et là, je m'adresse aussi bien à Alain Maheu qu'à ses élèves. Allez-y, soyez pas...
Grand silence.
Qu'est-ce que vous constatez en termes de public au niveau de l'âge? Est-ce que vous voyez beaucoup de jeunes ou alors est-ce que c'est plutôt des cinquantenaires, des quarantenaires?
C'est clair que... Moi, je ne vais pas au théâtre plus que ça, mais c'est clair que quand on y va, c'est clair que la fréquentation, il n'y a pas tellement de jeunes, mis à part si ce n'est des scolaires, et je dirais même essentiellement des scolaires. Sinon, ouais, je dirais que ça tourne autour de, je sais pas, entre 50 et plus.
Donc alors Mathias et Hélène, vous, quel est votre avis? Est-ce qu'il vous semble que les jeunes sont sous-représentés dans le public de théâtre?
Oui, complètement. Je me suis fait la même remarque que Louis, toutes les fois où je suis allée regarder du théâtre. Souvent, les jeunes qui sont présents sont des élèves eux-mêmes ou des pratiquants de théâtre, ou alors ce sont des scolaires qui viennent en groupe. Mais la majorité des personnes présentes dans le public sont des cinquantenaires et plus.
Donc en fait, quand il y a des jeunes, c'est pas forcément des jeunes qui viennent de leur plein gré, entre guillemets.
Pas vraiment, non.
Il n'y a pas de spontanéité d'un public jeune au théâtre.
Je me permets là, je pense que ça dépend de quel théâtre. Les chiffres que vous avez donnés, ils viennent du théâtre privé. Ici en région, dans toutes les régions de France, il y a moins de théâtres privés qu'à Paris par exemple ou à Lyon. Et donc il y a des théâtres comme les scènes nationales ou les centres dramatiques qui ont des missions de faire découvrir aux jeunes gens le théâtre. Donc ça se passe souvent au moment du collège et du lycée. C'est sûr qu'après le collège et le lycée, le public est dit, entre guillemets, moins captif Donc la mission, elle se modifie, si vous voulez. Et donc les jeunes gens, ils vont vivre leur vie dans d'autres villes parce qu'ils sont étudiants. Et souvent, vous me confirmerez ou infirmerez, mais souvent, ils passent à autre chose.
D'accord.
Ils découvrent d'autres choses, d'autres plaisirs. Et une semaine, ça fait 7 jours. Et donc, entre les cours, faire la fête le jeudi soir, le mercredi soir, etc. Il y a moins de temps pour sortir au théâtre. Et ça revient après. Moi, je pense que c'est pas des cinquantenaires. On voit des gens à partir de 30 ans dans les salles de théâtre.
Ouais, donc il y a un passage, on va dire, de la grande adolescence jusqu'à l'âge de jeune adulte où il y a une période de creux en termes de fréquentation des théâtres.
Je pense.
D'accord. Et alors, comment ça s'explique? Est-ce qu'on peut émettre l'hypothèse que le théâtre s'adresse pas forcément à un public jeune? Quel est votre avis là-dessus, Hélène, par exemple?
Au contraire, on peut facilement trouver de nos jours des pièces qui s'adressent aux jeunes et qui sont même faites par des jeunes. À mon sens, c'est un problème de communication autour de ça. On n'a pas de problème à se tenir informé des sorties cinéma ou même des sorties livres souvent, mais les sorties théâtrales, on voit peu de publicité, de gens qui en parlent, et je pense que les jeunes ne sont même pas au courant de ce que c'est que le théâtre aujourd'hui et qu'il peut s'adresser à eux et de ce qu'on peut retrouver en allant voir un spectacle de théâtre. Ils ont dû peut-être aller au théâtre 2 fois dans leur vie pour voir Molière avec l'école, et c'est l'idée qu'ils en ont gardée. Et je pense que c'est ça qui est resté dans leur tête. Ils ne savent pas aujourd'hui à quoi ils peuvent s'attendre en allant voir des spectacles.
Alors je me tourne alors vers vous, Baptiste et Clémentine. Est-ce que vous allez souvent au théâtre?
Alors pas du tout. J'y suis allé qu'une fois.
Bien dans le micro.
Pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, j'y suis allé qu'une fois de moi-même, on va dire. Et encore, c'était pour voir une connaissance qui jouait sur scène. Sinon, après, je n'y vais pas. Et pourtant, j'aime beaucoup lire les pièces de théâtre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose que j'ai fait un petit peu, même si c'était que du scolaire. Mais après, pour reprendre un peu aussi du côté de ce que disait Hélène, je pense que sur la partie de communication, etc., j'ai les informations que par des personnes qui sont soit liées au théâtre, soit que ce soit dans les métiers d'acteur ou même dans les métiers de couturier ou couturière. Mais après, j'ai pas aussi facilement l'information sans avoir besoin de chercher que justement, pour reprendre le parallèle, des cinémas, etc.
Ou alors tu confirmes ce problème de communication sur les sorties de théâtre, quoi.
En fait, c'est surtout qu'après, les seuls où on a de l'information, le ressenti est que, je sais pas, il y a moins d'appétence suite à l'information quand elle est communiquée par rapport à un film que pour une pièce de théâtre. Et pourtant, en fait, j'ai pas, juste en jugement brut, on va dire, sans aller chercher plus loin, à avoir une description ou quoi que ce soit. Et celle qui, à mes yeux, et là ça va juste être d'expérience, qui ont le plus de portée ou le plus de communication, de visibilité en tout cas, j'ai l'impression que c'est tourné sur justement peut-être un public plus averti ou en tout cas...
On va y venir justement à cet aspect-là. D'abord Clémentine, toi, est-ce que tu vas souvent au théâtre ou pas?
Alors je crois que ça va te décevoir Charlie, parce que tu pensais que j'y allais souvent. Si j'ai bien compris.
Non, je savais pas, mais je me demandais.
Non, j'y vais parfois. Après, la dernière fois que j'y suis allée, c'était en octobre. Je me souviens même plus du nom de la pièce,
j'allais demander,
désolée.
Pourquoi?
C'était l'histoire de deux frères. Ça racontait un peu leur vie, leur relation, qui se déchiraient, mais qu'en même temps, ils s'aimaient, etc. Mais personnellement, donc, j'y vais pas trop. Mais le théâtre, j'adore ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment un exercice qui est très important pour la vie de tous les jours, pour la communication. Et je sais que même là, au sein de mes études, qui pourtant c'est du droit, on a dû faire une scène de théâtre en commande publique, donc rien à voir. Et en fait, c'est un très bon exercice pour apprendre à communiquer, parler, etc.
Donc ça, c'est intéressant. Tu aimes la pratique du théâtre sans te rendre pour autant à des spectacles de théâtre.
C'est ça.
Alors, Baptiste, tu as dit que c'est parce que tu ne ressentais pas d'appétence particulière pour le théâtre. Tu as soulevé un autre point aussi sur lequel on reviendra plus en détail. Clémentine, toi, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu ne vas pas au théâtre?
La raison, le manque de temps parfois.
D'accord.
Franchement, je peux terminer tard, parfois à 22h les journées. Alors, c'est long. Mmh. Mais et sinon, oui, le manque de visibilité, je pense. Après, je sais pas, peut-être que je suis les mauvais médias aussi sur Internet et que maintenant, sur les réseaux, on est habitué à avoir, je sais pas, plutôt des programmations de concerts, etc. et moins des diffusions de scènes de théâtre, hein, d'événements de ce type. Mais sinon, oui, j'aime bien aller voir. Juste, j'ai pas vraiment la connaissance de quand il y a des scènes de théâtre.
Est-ce qu'il y a un aspect financier aussi qui intervient? Est-ce que vous estimez que c'est trop cher?
Bah, en étant étudiante, oui, un peu. Alors, c'est pas excessivement cher. Hein. Et je vais pas dire que c'est cher et je comprends tout à fait le fait que ce soit payant. Et
alors, je vous donnerai la parole juste après.
Mais en tant qu'étudiant, oui, c'est pas forcément facile parce que les bourses, elles baissent, les APL baissent, etc. Après, il y a peut-être des tarifs. Hein.
Baptiste, est-ce que ça rentre en jeu pour toi?
Pas du tout.
Pas du tout. C'est pas du tout l'argument. Ok. Et alors, juste avant que je vous redonne la parole, Alain, je voudrais vous demander quelle image, sachant que vous n'allez pas au théâtre, quelle image est-ce que vous avez du théâtre, en fait? Parce que Hélène a soulevé le point que elle estimait que c'était peut-être justement parce qu'on avait une image trop classique du théâtre et qu'on ne savait pas du tout à quoi ressemblait le théâtre contemporain. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Comment vous l'imaginez, le théâtre?
Du théâtre en tant que lieu?
Non, le théâtre en tant que spectacle. Qu'est-ce que c'est pour vous? À quoi D'accord. ça ressemble un spectacle okay. de théâtre, en fait?
Okay.
Bah, pour ma part, je sais pas toi Baptiste, mais je vois plutôt ça comme une manière de s'amuser, de s'exprimer. J'ai pas une image du tout négative, hein. Vraiment pas. Mmh. Et je pense que autour de moi, en tout cas, mes amis n'ont pas non plus cette image-là. Mais ça peut être une image qui existe en effet.
Et Baptiste?
Et non, l'image que j'en ai justement, c'est pareil, c'est des personnes qui vont venir, qui vont interpréter des rôles, se mettre dans d'autres conditions, faire parfois du jeu de rôle, on va dire, même dans des situations transportées avec ou sans décor, enfin voilà, par la parole, par la gestuelle, par les émotions, etc. Même si, d'un autre côté, parfois, il y a aussi le côté plus artistique ou aussi certaines pièces de théâtre qui sont plus axées sur l'art que sur, je sais pas, l'événement ou le scénario, on va dire.
Est-ce que vous avez une image de divertissement qui serait moins immersif que le cinéma, en fait? Est-ce que vous voyez le théâtre comme du cinéma en moins immersif? Ou pas du tout?
Ah non, pas du tout. Pour moi, ça peut être aussi immersif, voire plus immersif parfois que le cinéma. Je pense que ça dépend de la pièce, ça dépend des acteurs, ça dépend de la mise en scène, ça dépend d'énormément de choses, mais je pense qu'il y a tout simplement.
Alors, Alain, du coup, je vous redonne la parole. Vous vouliez soulever quelque chose par rapport au prix tout à l'heure.
Oui, sur les tarifs. En fait, souvent on entend ça, effectivement, que c'est cher. Mais je reviens toujours à la même distinction, c'est-à-dire qu'il y a différents réseaux, je dirais, de diffusion et de création. Et une ville comme Le Mans, par exemple, vous avez quand même une grande présence du théâtre dit subventionné. Ce qui fait que, moi, quand je sors avec mes élèves à Ève, la place coûte 4 euros.
C'est peu cher, effectivement.
Et à la scène nationale, au Quinconce, la place coûte 9 euros. Mais effectivement, on peut se retrouver dans un autre théâtre où la place va être à 25 ou 40 euros. Mais il faut quand même savoir, et ça je pense qu'effectivement, beaucoup de jeunes gens, parce qu'ils passent à autre chose, et n'étant pas vraiment au courant, on va pas fouiller, on va pas chercher les infos, mais il y a quand même cette info-là qui est importante, c'est que le théâtre est très très aidé en France pour que des jeunes gens puissent y accéder. Et j'entends bien ce que vous dites sur la vie des étudiants, l'enchérissement de la vie des étudiants, etc. Et je vous dis, à Ève, 4 euros le billet. On peut réserver juste à l'avance ou bien le soir même. Enfin, il y a un effort énorme qui est fait. Et on voit des spectacles très intéressants.
On se retrouve dans quelques instants pour continuer cet échange autour du rapport entre les jeunes et le théâtre. Vous pouvez gagner des places pour Gwendoline et Hyperculte le 18 avril à Jean Carmet en appelant au 02 43 24 37 37. Pendant la pause musicale, s'il vous plaît, tout de suite, on écoute Christophe, le spectacle.
Première fois, je marche sur la grande scène. J'ai laissé mes problèmes loin derrière le rideau. Pour la première fois, le projecteur m'entraîne et je ferme les yeux. Là devant le micro, je t'avais dit, je te regarderai, mais tout est noir, je te parle au hasard. Je veux chanter devant ce précipice où j'ai peur de me laisser tomber. Sans les larmes couler sur mon visage, à tous les mots que je lance vers toi, je sens mon cœur, ce morceau de glace, soudain brûler et courir dans tes bras. Je t'avais dit, je te parle au hasard. Je veux chanter devant ce précipice où j'ai peur de me laisser tomber. Pour la première fois, le projecteur m'entraîne et je ferme les yeux là devant le micro.
Retour dans l'amphi, je suis toujours avec Alain Meneust, professeur de théâtre, ainsi qu'avec trois de ses étudiants, Louis, Hélène et Mathias, mais également deux jeunes qui ne vont pas forcément au théâtre, Baptiste et Clémentine. Et nous parlons du rapport entre les jeunes et le théâtre. Nous avons évoqué les premières raisons qui pouvaient éloigner les jeunes du théâtre, à savoir qu'il peut renvoyer éventuellement une image ennuyeuse, qu'il pourrait être trop cher, et on a discuté de la vérité de ces arguments, et si c'était vraiment des arguments ressentis par Baptiste et Clémentine. On va aborder à présent un autre aspect de la représentation commune du théâtre. Alors sur professionspectacle.com, Aude Chabrier décrit le profil type d'un spectateur de théâtre. Elle se base moins sur l'âge que sur le secteur géographique, la classe sociale et le niveau d'études. En résumé bref, le spectateur de théâtre est un citadin diplômé ayant un niveau de vie confortable. Et une étude de Wallon affirme que 70% du public de théâtre est composé d'étudiants, de managers, d'ingénieurs et de retraités, contre 30% seulement d'employés ou de professions intermédiaires. Donc on en vient à ce que tu soulevais tout à l'heure, Baptiste. On comprend donc que le théâtre a la réputation en fait d'être élitiste. Alors je voudrais d'abord avoir l'avis de ceux qui ne se rendent pas au théâtre, Baptiste et Clémentine. Est-ce que cet aspect élitiste rentre en considération pour vous ? Baptiste, j'ai cru comprendre que c'était le cas en tout cas.
Alors j'irai pas jusqu'à dire élitiste. C'est que sur certaines pièces telles qu'elles sont présentées, de mon point de vue, c'est plus la démarche artistique qui est mise en avant. Et démarche artistique qui, à mes yeux, peut parfois être perdue. Mais c'est plus sur le théâtre expérimental, etc. C'est bien les bons termes. Là-dessus, je navigue en eau trouble. Après, sur les autres pièces de théâtre, pour moi, ça reste abordable pour tout le monde. Ça dépend, et c'est comme tout, en fait, ça va dépendre... du scénario, etc., de à qui c'est adressé, tout simplement.
Donc en fait, ouais, tu distingues un théâtre tout public et un théâtre qui est plus adressé aux connaisseurs, un théâtre qui est beaucoup plus intellectuel, abstrait, etc., c'est ça ?
Pour moi, oui, même si je pense que abstrait, ça, c'est compliqué, mais de dire abstrait sur du théâtre, mais en tout cas que derrière la visibilité du lien artistique et de la compréhension qu'il y a derrière peut parfois être plus flou si, mais comme tout domaine artistique, comme sur des personnes face à certains tableaux vont rien ressentir et donc effectivement ça s'adresse pas peut-être pas à eux.
Et Clémentine, quel est ton avis là-dessus ?
Non, bah, je rejoins Baptiste, je pense que c'est pas élitiste et que l'interprétation d'une scène de théâtre peut aussi dépendre de chaque personne. Et j'ai vraiment jamais pensé à ce terme-là de élitiste pour une pièce de théâtre.
D'accord.
Je pense que c'est tout public et que bah, comme tu dis, ça dépend. Il y a des personnes qui vont pas apprécier la peinture et t'en as qui vont apprécier une certaine pièce de théâtre et d'autres non.
Alors à présent, je me tourne vers vous, Alain, Mathias, Hélène. Et j'ai noté deux fois Alain, malheureusement. Donc Louis, oui. Voilà, c'est ça, merci. Est-ce que le théâtre est un art difficile d'accès?
Non, je pense pas. Je pense que ça reste accessible à tous. Jusque-là, moi, je suis d'accord avec ça. Après, il y a quand même dans la programmation, quand on regarde la programmation des Quinconces, par exemple, ils essayent de mettre un peu de tout. On va dire de la danse, objets, théâtre d'objets, mimes, plein de trucs comme ça. Il y a aussi des pièces, par exemple, comme la semaine dernière, on a eu Don Juan. L'année dernière, on a eu Othello, des grosses
très
pièces
bien, le Don Juan.
Assez denses. Comment ?
Donc, était très très bien le Don Juan de David Bowie, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Othello, par exemple, l'année dernière, qui était super. On a eu Caligula aussi. Donc, on a vraiment des gros textes. Et en plus de ça, on a aussi des créations contemporaines qui revient à ce qu'on peut dire. On n'a pas d'introduction, on n'a pas de contexte sur ces textes-là, sur ces écritures. Et du coup, on est en pleine découverte totale. Et ça peut être quelque chose qui, par exemple, je cite le cinéma, peut être un peu oublié.
En tout cas, on remarque avec les pourcentages que j'évoquais tout à l'heure, hein, que le spectateur de théâtre, en général, c'est quelqu'un qui a un niveau de vie un peu élevé, qui est diplômé, qui a fait des études. Donc, c'est qu'il y a comme, il doit quand même exister cette réputation du théâtre comme un art difficile d'accès. Qu'est-ce qui contribue à cette réputation, selon vous ?
Alors moi, je pense qu'il y a des raisons historiques. C'est que le théâtre, à une époque, était inscrit et s'inscrivait pour toute la population, pratiquement. Il y a eu un vrai théâtre populaire. Il y a eu un théâtre populaire après la guerre qui s'adressait aux ouvriers, aux paysans. Il y a eu plein de tentatives. Mais il y a un modèle prédominant qui fait que, je pense avec l'école aussi, le théâtre est extrêmement adossé sur la littérature. Alors qu'il y a un théâtre qui n'a rien à voir avec la littérature, et on peut faire du théâtre sans être avec des grands textes classiques et qui sont extrêmement intéressants. Mais du coup, ça reste l'apanage, ça reste un peu le domaine, de classe éduqués, qui aiment la littérature, qui ont gardé le goût de la littérature et donc du théâtre via l'école, alors qu'il y a des tentatives, je pense par exemple à une compagnie qui s'appelle Les Assoiffés d'Azur, ils sont en pleine campagne, ils montent un festival en pleine campagne et ils vont jouer des classiques sur trois planches, deux tréteaux, très simples, et ils veulent vraiment chercher à s'adresser à tous et toutes. Mais je pense qu'effectivement, ça reste un art qu'on va qualifier de bourgeois, peut-être comme la pratique du musée ou la pratique de la littérature. Le cinéma est, de par son histoire, beaucoup plus populaire. Donc moi, je trouve que c'est des fois un peu, c'est un peu vain de discuter sur le fait que c'est élitiste ou pas. Je crois pas que c'est un élitisme, ça dépend, est-ce que ça m'intéresse ou pas, comment donner le goût du théâtre. Alors on peut le donner à l'école ou alors par la pratique. Moi je vois les jeunes gens qui sont avec moi, ils ont eu envie de faire du théâtre, mais c'est moi qui, de par mon travail, les emmène voir des spectacles et du coup ils découvrent des tas de trucs. Et ils se posent plus la question de l'élitisme, en fait.
Alors avec cette image du théâtre qui est très liée justement aux grands textes littéraires, on revient à ce que tu disais. Pardon, tu voulais dire quelque chose, Mathias ?
Oui, tout à fait. Je voulais revenir sur cette image. C'est un argument qui a été abordé plusieurs fois sur...
Viens dans le micro, s'il te plaît.
Pardon, excuse-moi. Un point qui a été abordé plusieurs fois, c'est l'approche qu'on a du théâtre dans le milieu scolaire. Parce que, comme l'a dit Alain, y a une approche un peu littéraire où on va traiter une pièce de théâtre de la même manière qu'on traite un roman ou une poésie. On va analyser les figures de style, etc.
Des commentaires analytiques sur des textes de théâtre.
Et effectivement, les personnes qui se sentent détachées de ça vont se dire « bon bah le théâtre, c'est comme le reste de la littérature, ça ne m'intéresse pas ». Là où le théâtre, pour moi, c'est un art qui n'est pas fait, après c'est un avis très personnel, là, qui n'est pas du tout fait pour être analysé au mot par mot. C'est un art qui est surtout fait pour être vécu et pour être ressenti. Et donc pour vraiment vivre le moment, l'instant, c'est un échange entre les comédiens et le spectateur. Et effectivement, je pense que c'est surtout l'approche très très littéraire qu'a le système scolaire.
Qui est très théorique, en fait.
Et très théorique du théâtre, qui bride vachement, je pense.
Qui peut même dégoûter du théâtre, éventuellement.
Oui, moi, je pense, oui, que cette approche-là peut... peu dégoûté.
Mais alors c'est étonnant du coup, de quelle manière est-ce que vous avez été confronté au théâtre pour la première fois?
Je continue de parler vu que moi personnellement c'est alors dès tout petit dans les kermesses de primaire et tout ça on nous a fait un peu des pièces rapides comme ça, donc là j'avais déjà un petit attrait pour cet art là et ensuite au collège je m'étais inscrit dans un club amateur. Et c'était un club où on se réunissait plus entre potes pour jouer, on faisait des petites représentations mais on se posait même pas la question du texte, en fait on arrivait, on se disait vas-y on se donne un thème d'impro et on improvisait comme ça pendant des heures, on faisait ça une fois par semaine et puis quand il y avait une impro où on se disait tiens celle-là elle a vraiment de la gueule, allez on la travaille plus, on la creuse et c'est ça qu'on va présenter. Et c'est la première approche que j'ai eue du théâtre. Du coup, j'ai pas eu justement comme première approche une approche littéraire et très structurée. Et j'avais déjà cette envie d'utiliser le théâtre comme plus une expression libre.
Et alors, Louis et Hélène, ça a été quoi votre première rencontre avec le théâtre ?
Alors moi, ma première rencontre remonte au collège. Je m'étais inscrite à un club théâtre sur le temps du midi au collège. Et ce, pendant les 4 années que j'ai fait au collège, ça a été un véritable coup de foudre. Mais c'est que après que c'est resté dans un petit coin de ma tête, pendant le lycée, j'ai pas du tout continué le théâtre, puisqu'au lycée où j'étais, il n'y avait pas de club théâtre, mais ça m'a jamais quitté. Au fond de moi, c'était resté dans un coin. Et c'est bien plus tard, pendant mes années d'études à l'université, que je me suis rappelé qu'il y avait un conservatoire au Mans et que je pouvais m'inscrire pour continuer la pratique de cet art. On y vient tous chercher quelque chose de différent au théâtre et quand j'étais au collège. Je pense que j'avais pas encore très bien compris l'enjeu de la pratique de cette activité. Je pensais que ça consistait à apprendre un texte et le réciter de la façon dont on pense que ça rend le mieux. Mais c'est après, avec le travail au conservatoire, que je me suis vraiment rendu compte que c'est quelque chose de vivant, que c'est un échange d'énergie entre nos partenaires de jeu et en même temps le public, qu'on ne refera jamais la même scène de la même façon 2 fois de suite. Ça dépend de l'état dans lequel on est le jour où on joue. Et cette énergie humaine est très malléable et très perméable entre les êtres. Ça m'a plu d'aller la retrouver en spectacle. C'est comme ça que je me suis mise à sortir de plus en plus souvent en spectacle pour aller voir d'autres personnes se donner à fond, certains s'éclater, d'autres plus ayant le but de vouloir faire passer un message au spectateur, que de vouloir transmettre quelque chose et que quand on sorte de la salle, il se soit passé quelque chose. Mais c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté depuis le collège.
Et alors Louis, pour finir.
Alors moi, je n'étais pas du tout intéressé par le théâtre jusqu'au lycée, où je me suis dit, tiens, on avait une option entre art plastique ou art du spectacle. Et donc j'ai fait théâtre au lycée pendant 4 ans. Et vraiment, dès le premier cours de la seconde, ça a été le coup de cœur tout de suite. Parce que je me rends compte que c'était en même temps un travail, en même temps un divertissement de soi-même, mais aussi avec les autres. Et en même temps, j'avais toujours cette espèce de pulsion de nostalgie, de souvenirs que j'avais avant quand j'allais au théâtre en scolaire. Où à chaque fois, mais c'était une adrénaline, à chaque fois que j'allais au théâtre, j'allais dire au cinéma, au théâtre... à chaque fois, j'étais émerveillé, quoi. Et donc, j'ai commencé en seconde. Et puis après, j'ai jamais lâché, quoi. Jusque-là, j'ai toujours continué. Et
est-ce que depuis que vous pratiquez, vous allez plus souvent au théâtre en tant que spectateur? Personne ne répond, là.
Si, quand même. De part, déjà, en plus, avec le conservatoire. Et puis même à côté. Et puis même ensuite... l'envie de participer avec d'autres pour d'autres projets, que ce soit en ayant créé du réseau, tout ça, il y a d'autres personnes qui veulent faire des créations, et puis après, on essaie de les aider, de les accompagner, et puis peut-être même de jouer avec eux sur scène.
Alors, on expliquait en tout cas tout à l'heure que les textes du coup, qu'on étudie au collège et au lycée, ils ne sont pas forcément représentatifs de ce qui se fait aujourd'hui au théâtre, et vous avez vraiment tenu à séparer, en tout cas à distinguer littérature et théâtre. Alors, est-ce que vous pourriez un peu nous dépeindre, nous expliquer en quoi consiste le théâtre contemporain et peut-être nous donner deux ou trois références d'auteurs ou de pièces à découvrir absolument pour s'initier au théâtre. Alain, si vous voulez prendre la parole.
Grand silence.
Je suis en train de réfléchir.
D'un coup, on voit nos incompétences.
Non. Je pense que c'est une question très difficile parce que définir le théâtre contemporain, c'est quasiment impossible. Il y a tellement de formes, de...
Ça parle en tous les sens.
Ouais, c'est vraiment très...
Protéiforme.
C'est exactement. Et c'est ça qui est fascinant d'ailleurs avec le théâtre contemporain, c'est qu'il s'affranchit de toute règle. Mmh. Et du coup, il peut y avoir de tout et de n'importe quoi. Et il y a des pièces qui sont... Il y a des seules en scène qui sont magnifiques. Il y a des pièces avec 15 personnes ou des choses comme ça. Il y a des pièces où il n'y a même pas de comédiens directement sur le plateau, mais qui vont être filmés dans les coulisses ou des choses comme ça. C'est tellement vaste et tellement large, la pratique... C'est tellement vaste et tellement large, la pratique contemporaine, que la définir, ce serait compliqué, je pense.
D'accord. Mmh. Est-ce que vous avez quand même un ou deux auteurs en tête qui sont vraiment importants à découvrir ?
Moi, je pense que autrice contemporaine vraiment d'aujourd'hui, vous avez quelqu'un comme Magali Mougel ou Pauline Perrade. C'est vraiment extrêmement intéressant la manière dont elle écrit et ce qu'elle entend raconter sur l'actualité professionnelle des femmes, sur le monde économique, sur la suggestion des femmes au monde économique. Il y a vraiment des sujets extrêmement intéressants. Vous avez un grand classique du contemporain, parce qu'il y a des classiques contemporains. vous avez deux grands auteurs français qui sont, il y en a un qui est absolument extraordinaire et remarquable, c'est Bernard-Marie Coltès, qui reste un très grand poète, extrêmement intéressant à travailler sur le plateau. L'intérêt des textes de théâtre, c'est pas, on peut les lire bien sûr, mais il faut les lire ensemble déjà. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut texte à la main, il faut aller travailler sur le plateau pour comprendre comment ça marche. Il faut le prononcer. Le texte de théâtre, c'est quelque chose qui est fait pour être mis en bouche, pour être dit en corps.
La lecture, c'est qu'une première étape.
Voilà, c'est vraiment une première étape. Donc, dire à des jeunes gens, allez à la librairie, achetez des pièces de théâtre et lisez-les chez vous, c'est pas sympa, parce que c'est pas facile. Vaut mieux lire un roman, là, je pense.
Hein ? Alors, on se retrouve dans quelques instants pour la suite et fin de notre échange sur les jeunes et le théâtre. Vous pouvez gagner des places gratuites pour les cinéastes en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute une musique issue d'un spectacle de Novarina, Le jeu des ombres.
Dedans nos estomacs. régale, régale encore plus que.
De retour dans l'amphi pour la suite et fin de cette discussion autour du rapport entre les jeunes et le théâtre. Nous avons vu que le théâtre était délaissé par les jeunes, éventuellement pour des raisons géographiques, financières ou culturelles, et nos invités ont examiné pourquoi ces raisons devaient être dépassées. Nous allons à présent brièvement chercher l'origine de ces raisons. Alors, d'après un article de Sandrine Blanchard publié dans Le Monde en 2022, la crise du Covid a grandement affecté la fréquentation des théâtres. Les deux tiers des personnes interrogées déclarent y aller moins qu'avant la crise. Alors, est-ce que vous pensez que ces années de confinement ont empêché une partie de la jeunesse de nouer un premier contact avec le théâtre? Ça laisse tout le monde sans voix.
Je pense que le problème, il date d'avant ça. Je pense que ça a accéléré un problème qui était déjà là.
Mm.
Je pense que là, pour le coup, le Covid, il a bon dos. Parce que le théâtre délaissé par la jeunesse, je pense que c'est un problème qui date d'avant le Covid.
D'accord. Pour toi, le fait qu'il y ait eu un confinement, qu'il n'y ait plus de pièces pendant un ou deux ans...
Ça a affecté toutes les formes d'art. Mm. Donc,
oui, ce qu'on dit là sur le théâtre, ça se généralise en fait à beaucoup de choses.
Oui, bien sûr.
Mais je veux dire, sur les jeunes qui justement, comme on disait, il pouvait éventuellement y avoir un premier accès avec des spectacles qu'on va voir au lycée, s'il n'y a pas eu ça pendant deux ans de confinement, peut-être que ça fait un premier rendez-vous manqué avec le théâtre. Non, ça vous semble pas forcément révélateur de quelque chose d'important, ça ?
Si, moi je pense que si. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une génération d'enfants, pré-ados, ados, qui, du fait du confinement, ont loupé la première étape, où on l'a vu d'ailleurs dans vos témoignages, souvent c'est à l'école primaire ou collège qu'on va voir un spectacle. Et donc du coup, il y a des générations, ça n'a pas eu lieu pour eux. Il y a une génération, ça n'a pas eu lieu pour eux. Donc après, ils vont peut-être rattraper les choses en allant au lycée. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les premiers pas en théâtre, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup grâce au milieu scolaire. Donc si on parle de phénomène littéraire, il ne faut pas confondre. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'école est vachement important.
Justement, Pascal Cagliard, pour citer un dernier article, dans un article de l'École des Lettres, note une attitude paradoxale de l'éducation nationale entre encouragement formel à fréquenter le théâtre et refus de proposer des sorties gratuites et obligatoires dans le cadre scolaire, laissant ces sorties à l'initiative des professeurs avec les difficultés administratives et budgétaires qui s'en suivent. Alors, est-ce que vous estimez que l'éducation nationale a une part de responsabilité dans le désintérêt des jeunes vis-à-vis du théâtre ?
Prends la parole, mais pardon. Mais je pense que non, l'éducation nationale, faut quand même la protéger, quoi. C'est-à-dire qu'elle a bon dos, on lui en fout plein la gueule tout le temps. Voilà, je me permets de le dire. Après, moi en tant que professionnel du théâtre, je peux avoir un discours critique ou des observations critiques sur la manière dont le théâtre est rencontré en lycée, collège ou école primaire. Mais il y a quand même un boulot absolument énorme qui se fait. Rendre le théâtre obligatoire, ce serait une catastrophe. C'est une catastrophe. Par contre, un prof qui fait bien son boulot, qui a envie, et en général ça se passe comme ça, il emmène les jeunes gens dans des salles. Et dans toutes les villes de France, il y a moyen de voir un spectacle à partir de l'âge, enfin de l'école primaire.
Mais c'était ça qui était sous-entendu dans obligatoire. En fait, c'était... Il y a un refus de ministère de l'Éducation nationale d'établir des sorties obligatoires comme il s'en fait actuellement, mais qui mobilise un budget des établissements, etc., alors qu'on pourrait faire en sorte que ces sorties soient en quelque sorte incluses dans le programme d'une année. En fait.
Ah oui, oui, ah bah ça oui. Mais moi, je pense pas que ce soit une bonne chose de le rendre, de le systématiser. Je pense pas.
D'accord.
Je pense pas. Il faut faire confiance au boulot des professionnels sur le territoire, d'une part, et puis la capacité des profs à avoir envie de faire des choses avec leurs élèves. Sinon, on leur dit encore une fois, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et on n'arrête pas d'emmerder l'éducation nationale. Enfin, les profs, quand même, souvent, c'est à croire qu'on les empêche de bosser, quoi. Bon, ça, c'est mon petit plaidoyer. Mais... et pourtant, je ne suis pas à l'éducation nationale. Hein.
Alors, on approche de la fin de notre échange. Alain, Louis, Hélène et Mathias, est-ce que vous voudriez parler de ce que vous faites, si vous préparez une pièce, les dates potentielles de vos représentations?
Alors, oui. Voilà.
Eh bien, merci pour ton intervention.
Non, mais si, là, on prépare des spectacles, des projets perso, ce qu'on appelle forme courte. Donc, ce sont des projets que chaque élève doit mettre en scène et doit mettre en scène ses collègues. Donc, les deuxièmes années ont 30 minutes, les premières années ont 15 minutes.
D'accord.
Et en plus de ça, on est 5. Donc ça fait, on a 3 fois 30 minutes et 2 fois 15. Et on a aussi chacun et chacune, on a 2 scènes, dont une classique, et un monologue, okay. Chacun, chacune. Et
il y a du boulot.
Ouais. Oui. Et donc on fait tout ça le 13 juin à Scarron.
Ça marche, 13 juin à Scarron. Alors, je vous propose, avant de nous quitter, d'écouter un extrait d'une pièce de Valère Novarena. Donc, on a entendu une musique extraite de sa pièce Le jeu des ondes tout à l'heure. Alors, maintenant, on va écouter une scène appelée La formule du temps, extraite de L'Origine rouge. Et on va entendre performer l'immense acteur Dominique Pinon. Donc, je vous invite à écouter ça et à me dire ensuite ce que vous en avez pensé.
Garçon, qu'en pensez-vous? A plus B facteur de A moins B égale A carré moins B carré.
Garçon! Qu'en pensez-vous?
A plus B au cube égale A au cube plus 3A carré B plus 3AB carré plus B au cube.
Qu'en pensez-vous?
A plus B puissance 4 égale A puissance 4 plus 4A au cube B plus 6A carré B carré plus 4AB au cube plus B puissance 4.
Garçon, qu'en pensez-vous?
A plus B puissance 5 égale A puissance 5 plus 5A puissance 4B plus 10A au cube B carré plus 10A carré B au cube plus 5AB puissance 4 plus B puissance 5.
Garçon, qu'en pensez-vous?
Soit grand X. Et grand Y, deux vecteurs aléatoires, tels que le vecteur grand Z, qui est égal à grand X, grand Y, admettent une densité de probabilité. Et soit petit g, fonction de grand R, puissance petit L plus petit M dans grand R, où petit L et petit M sont les dimensions grand X et grand Y, respectivement une fonction mesurable, et tels que petit g de grand X, grand Y, soit de carré intégral. Alors, la variable aléatoire petit h de grand Y égale à l'espérance de petit g de grand X grand Y, sachant grand Y est telle que l'espérance du carré du module de petit h de grand Y soit strictement plus petit que l'infini, et elle minimise l'écart quadratique défini par l'espérance du carré du module de grand V de grand Y moins petit g de grand X grand Y parmi toutes les variables aléatoires de la forme grand V de grand Y, où grand V est une fonction mesurable de grand G puissance petit h dans grand Y, est telle que l'espérance du module de grand V de petit Y au carré soit strictement plus petit que l'infini.
C'est-à-dire
A plus B puissance 6 égale A puissance 6 plus 6A puissance 5B plus 15A puissance 4B carré plus 20A au cube B au cube plus 15A carré B puissance 4 plus 6AB puissance 5 plus B puissance 6. A plus B puissance 8 égale A puissance 8 plus 8A puissance 8B plus 8A puissance 8B puissance 8 plus 8AB puissance 8 plus 1 puissance 8B puissance 8 plus B puissance 8. A plus B puissance 8 égale A puissance 8 plus 8A puissance 8A plus 8A puissance 8A plus 4A puissance 8 plus 8A puissance 8A plus 4A puissance 8 plus 1 puissance 8. Voilà la formule du temps.
Voilà, donc c'était un extrait de L'Origine rouge de Valère Novarena, une scène appelée La formule du temps. C'est disponible sur YouTube et je vous conseille d'aller voir, c'est encore plus génial à voir qu'à entendre. Alors Alain Maheu, est-ce que vous avez un petit mot sur Valère Novarena déjà?
Valère Novarena, c'est un poète qui est une espèce de météorite dans l'écriture du théâtre. Il a un statut à part, puis il a surtout tracé un chemin très, très, très personnel. Et c'est un inventeur, comme on dit, c'est un inventeur de langue. Et c'est quelqu'un qui aussi prend en compte que le théâtre, c'est aussi du son, du souffle, du verbe et de la musique.
Et alors, vous autres, qu'est-ce que vous avez pensé de cet extrait ? Assez rapidement, parce qu'on...
Alors, il faut saluer la performance de l'acteur,
oui,
déjà.
Oui,
je ne m'imagine pas faire ça.
C'est très, très impressionnant. Et alors, vous autres, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je pense notamment à Baptiste et Clémentine. Ça a dû vous étonner, sans doute.
Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il dégage une bonne... je ne sais pas. Quelque chose de... Ouais, une bonne énergie. Mm. Et une forme de puissance aussi dans sa manière de s'exprimer. Non, franchement, du positif.
Et Baptiste, ton avis là-dessus ?
Non, pareil, j'ai adoré juste le déroulement et au final de se dire, mais en fait, la chute, ça va bientôt arriver. Et non, en fait, ça continue, ça renchérit, ça renchérit, ça renchérit. Ça s'arrête jamais. Mmh. Et même sans l'image, j'avais vraiment l'impression de le voir sautiller dans son coin et expliquer. Mmh. Mais parce que c'est d'une logique ce qu'il dit, alors que à mes yeux, à force qu'il continue, pas du tout. Mais... Et voilà.
C'est étonnant parce que tu parlais de trucs. Ouais, je suis moins fan des trucs un peu trop poussés dans le concept artistique, machin, tout ça. Mais Valerna Novarina, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on ne comprend rien à Valerna Novarina, il n'y a pas grand chose à comprendre. Mais on rigole quand même, en fait. C'est drôle alors qu'on ne comprend rien. Enfin, c'est peut-être ça qui est drôle, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que j'apprécie beaucoup Valerna Novarina.
Je pense que c'est comparable finalement à un concert ou un concert de jazz. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, il y a une envolée et Novarina écrit des envolées lyriques pour les acteurs, sauf sur des thèmes qui sont étonnants. Mm. Voilà, là, c'est la formule du temps, il y a un humour fou. Et après, l'autre chose, c'est qu'il y a l'incarnation. Ouais. C'est-à-dire qu'on entend là le public qui rigole, c'est qu'il doit se passer des choses sur le plateau. Mais c'est l'acteur, Novarina, qui, grâce à son écriture, met l'acteur dans des situations de sportif. Mm. Et là, le plaisir d'aller au théâtre, bah, c'est pas du tout un télo ou il est dit, c'est qu'on voit tout d'un coup un acteur ou une actrice qui mouille la chemise et qui nous donne, qui nous transmet de l'énergie, comme disait Hélène tout à l'heure. Et c'est ça aussi un intérêt.
Voilà, clairement, on voit que c'est pas à lire, c'est à voir, quoi, clairement. Je vous remercie en tout cas beaucoup d'être venus tous et de nous avoir parlé de votre rapport au théâtre. Ça va être la fin de cette émission. On va passer dans quelques instants aux chroniques étudiantes. Merci à tous.
Merci, Charlie.
Merci, Charlie. Merci.
Et donc, on va passer sans plus attendre aux chroniques étudiantes. Donc, Maxime, tu peux venir prendre place, car c'est l'heure de la chronique de Maxime, sa chronique cinéma.
Salut. Salut.
De quoi tu nous parles aujourd'hui?
Attends, le temps que je mette là...
Le temps que tu prépares ta chronique, ça marche.
Ah. Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, je vais vous parler d'un film d'horreur, à savoir La Malédiction, l'origine, écrit et réalisé par... Arkasha Stevenson. Le film raconte l'histoire de Margaret qui, au début des années 70, entre à Rome pour réaliser son rêve être nonne. Mais son rêve devient vite un cauchemar lorsque des visions terrifiantes font leur apparition et qu'elle mettra à jour un complot visant à faire naître l'Antéchrist. Ce long métrage est issu de la saga du même nom avec le petit Damien, qui a commencé par le film de Richard Donner, Superman ou même la saga L'Arme Fatale. N'ayant pas vu le film original, je ne me contenterai que de parler de ce dernier, qui s'avère être une petite surprise, pas tant par son scénario qui est littéralement la même histoire que le film Immaculé avec Sidney Sweeney, mais plutôt par certaines idées, certaines séquences choc et des visions assez efficaces, même si certaines références cinématographiques sont peu subtiles, notamment celle sur Rosemary's Baby. Je pense notamment à une scène choc où une nonne se pend et se brûle devant tout le monde c'est une scène assez efficace. Donc je dirais que, pour conclure, que ce film c'est immaculé en mieux malgré quelques défauts.
Immaculé en mieux malgré quelques défauts, ce sera la formule du jour, d'accord.
C'est ça. Après, immaculé c'est pas mauvais, je pense notamment à sa scène d'accouchement qui est la meilleure scène du film, mais c'est vrai que c'est moins efficace que celui-là, parce que même si effectivement on peut avoir un tout un peu prévisible quand on sait la raison de l'existence de la malédiction, et on sait que surtout quand on a vu Immaculée, on sait vite le plot twist, mais c'est plus efficace qu'Immaculée pour le coup.
Okay. Voilà. Et ben merci beaucoup Maxime pour ta chronique. On va se quitter avec Après le théâtre d'Anne Sylvestre.
avant qu'on lève le rideau, déposons là tous nos fardeaux, nos peines, et retrouvons nos oripeaux. Ils sont plus vrais que notre peau, ils viennent faire de nous des éphémères, capables de tous les frissons, d'apprivoiser mille chimères, et puis le temps d'une chanson, d'être Arlequin ou Cléopâtre. Y a-t-il une vie après le théâtre? En scène, une fois le rideau levé, plus rien ne peut nous arriver. La reine, ailleurs si prête à trébucher, promène sans s'effaroucher sa traîne. Chacun de nous reprend sa place, le bègue oublie de bafouiller, le timide est rempli d'audace, le muet peut s'écosiller, c'est leur cœur qui se met en quatre. Y a-t-il une vie après le théâtre? Scène, c'est la vie, mais pas tout à fait, c'est une apparence, un reflet, à peine, comme si juste on attendait que cet instant presque parfait survienne. C'est une quête si fragile qu'un souffle peut la déranger. C'est une fée au pied d'argile, c'est un éclat, c'est un danger, mais c'est l'espérance opiniâtre. Y a-t-il une vie après le théâtre? En scène, on est le rêve du passant, de ses amours le remplaçant. On traîne un univers envahissant, dont la tendresse fait qu'on s'en souvienne. On sourit, on salue, on brille, on garde plus que de raison son diadème de pacotille, et on ramène à la maison ce pauvre moi qu'on idolâtre. Y a-t-il une vie après le théâtre? On sait. Le temps s'égrène au ralenti, mais l'heure petit à petit s'amène, où le dernier mot retentit, où le rideau nous engloutit, obscène. Et sans qu'au dehors on le sache, dans les coulisses on fait son deuil, avec un restant de panache, d'une existence en trompe-l'œil, d'un cœur qui s'arrête de battre. Y a-t-il une vie après? On sait qu'il n'y aura pas de fleurs pour accompagner le silence, loin de la scène, loin du cœur, plus de musique pour la danse, on aura cessé de combattre. Y a-t-il une vie sans le théâtre?
On se retrouve mercredi 17 avril pour vous présenter les prochaines rencontres et dédicaces à la Librairie Bulle. Et on sera aussi avec le groupe Inuit qui performe à Eve le 24 avril. Merci d'avoir écouté l'émission et à bientôt dans l'Amphi.
C'était l'Amphi, l'émission étudiante.